pour souligner les témoignages que je vais donner à la gloire de notre Seigneur. J'ai à cœur de lire ce soir Ésaïe 53. Ce que Jésus a fait à la croix, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures à la croix que nous sommes guéris. La guérison ne vient pas d'une autre façon que par la croix de Jésus-Christ. Toute guérison qui serait donnée à quelqu'un en dehors de la croix, par une autre personne que Jésus, n'est pas de Dieu. J'ai à cœur de dire cela. Et puis, maintenant, je vais encore lire pour le premier témoignage, pour souligner le premier témoignage qui sera de ces témoignages que nous avons récoltés de ce qui s'est passé l'année dernière à cette convention à Valence. Donc, c'est pas vieux, ça fait une année. Et pour souligner le premier témoignage, je lirai dans le psaume 41 où il nous est dit que celui qui sert le Seigneur, l'Éternel le garde et lui conserve la vie, qu'il le soutient sur son lit de douleur, qu'il le soulage dans toutes les maladies. Et ce qui s'est passé l'année dernière ici, plutôt à Valence, c'était ceci, c'était quelqu'un qui sert le Seigneur justement et qui avait de grandes douleurs dans l'estomac depuis 3 ans et plus. Et eh bien le voilà. Le voilà, c'est Jean Bluna, c'est de toi que je parle. Donc, il souffrait depuis trois ans de douleurs. Depuis 5 ans de douleurs à l'estomac, opéré en l'an 2000, c'est ça? Oui, tu peux peut-être le dire là, toi aussi? Vas-y, dis-le toi-même, viens.
Oui, je remercie le Seigneur parce que je me suis fait opérer d'une occlusion intestinale il y a 5 ans. Et donc, on m'avait mis une plaque. Et donc, vous savez, c'est un corps étranger et j'avais des douleurs. Je ne pouvais même pas mettre les bras quand je m'asseyais sur l'estomac. J'ai passé des nuits, j'ai téléphoné pour que l'on prie pour moi. Et puis, un jour, il y a eu le miracle de Dieu. C'était à Valence l'année dernière. Et Dorothée a une parole en disant que quelqu'un avait mal à l'estomac, il y avait un corps étranger, et le Seigneur mettait sa main entre la plaque et l'estomac.
Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà,
j'ai
ça.
Saisi par la foi. Mm-hmm. La douleur, je vous avoue, n'est pas partie de suite, parce qu'on se dit toujours, est-ce que c'est pour moi? Mm-hmm. Et puis en rentrant, j'ai dit, Seigneur, si cette parole était donnée, je la serre sur mon cœur et elle est pour moi. Et puis progressivement, cette douleur, sans m'en rendre compte, est partie. Et totalement, toutes les douleurs que j'ai eues pendant 5 ans sont parties.
Alléluia.
Alors je dis que rien n'est impossible.
Alléluia, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci pour ton témoignage, Jean. Merci beaucoup. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur s'est glorifié aussi l'année dernière à Valence, à cette même convention. Et nous lui en donnons toute la gloire. C'est la première fois, d'ailleurs, que j'ai dit une telle parole de connaissance. Depuis 40 ans que je donne à peu près des paroles de connaissance, eh bien, c'est la première fois que j'ai dit que le Seigneur mettait sa main entre le corps étranger qui est dans l'organisme et son propre corps pour que ça ne fasse plus mal. Parce que les médecins avaient dit aussi, selon Jean, qu'on ne pouvait pas enlever la plaque parce que sinon c'était l'éventration. Donc on était obligé de la laisser. Donc il devait vivre avec cette douleur jusqu'à la fin de ses jours. Et c'était pas très encourageant, je vous assure. Hein. Surtout qu'il souffrait beaucoup. Il nous téléphonait souvent. J'ai mal. Je sais plus comment faire. Et puis voilà. Le Seigneur a dit cela et a fait cela. C'est beau. Hein. C'est très beau. Sa compassion est grande. Hein. Grande. Et là, j'aimerais parler aussi d'une autre sœur qui est au milieu de nous et qui a aussi reçu un attouchement du Seigneur. Il s'agit d'Adrienne Leremont. Tu veux te lever, Adrienne? Voilà, c'est Adrienne. Elle aussi a été touchée aux genoux, aux articulations et sous la plante du pied, tu avais écrit. Et puis, qu'est-ce que tu avais vu en rentrant chez toi? Elle ne pouvait pas remonter les escaliers. Et là, elle montait comme une genette. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au Seigneur, toute la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Et puis, un troisième témoignage qui est présent ici également, c'est Claudia Saban aussi, qui est. Voilà. Voilà. Elle aussi, donc, elle nous a écrit par la suite que j'avais une parole de connaissance disant que le Seigneur touchait quelqu'un qui avait des douleurs dans le dos, cervical et dorsal, n'est-ce pas? C'est ça? Et puis le Seigneur a touché notre sœur Claudia et elle lui a enlevé ses terribles douleurs, si bien qu'elle est rentrée. Ça, beaucoup ne le savent pas parce qu'elle l'a écrit après, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Et alors, il y a eu encore une autre dame. Il y avait l'année dernière, un couple du Canada est venu avec leur fille. C'est Françoise Gérard, de près de Québec, à Montmagny. Ils sont nos représentants un peu dans la région de Québec. Et elle m'a aussi écrit plus après être rentrée chez elle, qu'elle souffrait depuis plus d'un an d'ulcères à l'estomac. Oui, d'ulcères à l'estomac. Et il y avait eu une parole de connaissance qui avait été donnée, que le Seigneur guérissait cet ulcère d'estomac. Et elle nous a écrit, je ne sais pas combien de médicaments j'ai dû prendre, mais rien ne pouvait ni faisait et le Seigneur m'a guéri complètement. Alors merci Seigneur aussi pour cet ulcère qu'il a guéri l'année dernière. Elle est venue du Canada et le Seigneur l'a touchée en France et c'était son premier voyage hors de son pays, son premier voyage en Europe et son premier voyage en France. Alléluia, alléluia. Le Seigneur vous amène du bout du monde parfois pour vous toucher. N'est-ce pas sa compassion? N'est-ce pas merveilleux de voir un Dieu qui s'occupe tellement des détails de notre vie, qu'il sait nous conduire ici, là-bas, maintenant tu vas ici et maintenant tu vas là-bas. Alors on a un peu avantage à lui obéir, vous croyez pas? Gloire à Dieu. Et alors un dernier témoignage, ça va être celui-ci. Il y a quelques années, je faisais une réunion pour les dames dans une école, dans une église à Zurich. Et je parlais aux dames, je leur parlais du Seigneur, je les enseignais dans les voies de Dieu. Et j'avais une traductrice en suisse-allemand, quoique moi-même je parle le suisse-allemand et que c'est ma langue, mais je ne pouvais pas parler deux langues à la fois, si bien que j'avais bien besoin d'une traductrice quand même. Et comme il y avait des francophones et des suisses-allemandes aussi, donc j'avais une traductrice. Et puis, cette traductrice, je ne savais pas qu'elle était un peu gravement quand même malade. Elle avait un problème terrible. Elle avait de violentes migraines persistantes et des vertiges depuis 25 ans. Et quand j'ai dit cette parole, elle a traduit cette parole. Et c'était pour elle. C'est l'humour du Seigneur, hein, c'est quelque chose. Mais cette dame, c'était tellement grave sa situation que elle avait 60 ans là à l'époque. Et puis elle disait que quand elle allait au travail, elle était tellement parfois, elle avait tellement peur de prendre le volant de sa voiture que elle avait peur d'un seul coup d'avoir une crise de migraine avec des vertiges et de faire un accident. Et elle devenait un danger public sur la voie publique avec sa voiture, ses vertiges. Elle devait s'arrêter au bord de la route à chaque fois et puis ça pouvait un jour être fatal. Alors le Seigneur a vu cela. Ça devenait un danger pour les autres et elle-même aussi qui souffrait terriblement. Alors il l'a touchée et puis elle dit elle-même, le Seigneur à ce moment-là m'a guérie de cette affreuse torture. 25 ans de migraine. Et ceux qui ont eu des migraines, vous savez ce que c'est. C'est pas mal pénible. C'est pas mal douloureux. Alors nous voulons rendre gloire au Seigneur qui a libéré cette sœur à cette réunion de dames. Merci Seigneur de t'être glorifié pour cette dame qui s'appelle Violetta. Seigneur, bénis-la aujourd'hui là où elle se trouve. Merci Seigneur de l'avoir libérée de ses migraines qu'elle traînait depuis 25 ans. À toi la gloire et la puissance et le règne. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et je crois la présence du Seigneur est là. Ce soir, il va encore en toucher quelques-uns. Préparez votre cœur. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, qui est plus importante encore. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, merci pour ta sainte parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Qu'elle puisse encore ce soir nous éclairer, nous sonder, nous relever, nous guérir, nous transformer, nous nourrir. Seigneur, merci pour cette parole de vie. Le ciel et la terre passeront, tu as dit, mais mes paroles ne passeront point. Chose extraordinaire, parce que ces paroles viennent de toi, ce sont des paroles de Dieu. Merci Seigneur. Et que ces paroles tombent dans un terrain bien préparé. Car si ces paroles tombent sur un chemin dur, pierreux, plein d'épines, cette semence ne pourra porter du fruit. Fais qu'elle tombe, Seigneur, dans un chemin labouré, préparé, afin qu'elle porte du fruit en persévérance. Merci, Seigneur. Notre attente est en toi. À toi soit toute la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur est là encore. Il fait des choses merveilleuses. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais donner quelques paroles d'encouragement ce soir. Et nous allons prendre l'épître, la deuxième épître à Timothée cette fois. Et c'est dans le chapitre 2 que nous allons découvrir des vérités importantes pour chacun d'entre nous. 2 Timothée 2. Et dans ce deuxième chapitre, il y a des noms qui sont mentionnés. Différents noms que Paul donne en écrivant à Timothée. Par exemple, il lui dit « mon enfant », il lui parle de soldat, il lui parle d'athlète, il lui parle de laboureur, d'ouvriers, de vases, de serviteurs de Dieu. Il y a là 7 noms que Paul donne à Timothée. Et en disant cela, il y a certainement un message pour chacun d'entre nous. Et ces 7 noms, si vous le voulez bien, correspondent à 7 appels du chrétien. Bien souvent, nous disons, moi, je n'ai pas d'appel. Il n'y a que les prédicateurs ou les missionnaires qui ont un appel. Moi, je n'ai rien du tout. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que dans ces sept noms, il y a sept appels. Paul a appelé Timothée de différents noms parce que ces noms correspondaient à un appel, à un message, à quelque chose de précis. Et c'est comme si Paul s'adressait aussi à toi et à moi. Il y a sept appels. Tu ne pourras pas dire un jour que tu n'as jamais été appelé. Ah bon ? Moi, j'attends toujours un appel. Eh ben, tu es un peu en retard. Bien souvent, nous attendons des appels un peu à notre idée. Et quand le Seigneur ne fait pas les choses comme nous le voulons, tous les autres appels, au frigo ou dans un tiroir, on n'en veut pas. Ça ne m'arrange pas et ça ne m'intéresse pas. C'est une grande erreur. Chacun d'entre nous, nous avons reçu ces sept appels. Ouh là là, moi j'ai cru que un appel déjà m'aurait suffi, vous m'en donnez sept ce soir. C'est beaucoup. Mais oui, c'est parce que le Seigneur veut faire de belles choses avec vous. Il veut que votre vie soit utile, qu'elle soit bénie, que de chrétiens, j'allais dire, ils sont au chômage, spirituellement parlant. Quand on est avec le Seigneur et qu'on a compris ce que Dieu veut pour nous, son appel, il n'y a pas de chômage. Et parce qu'on n'a pas compris cela, on exerce une vie chrétienne insatisfaite. On est malheureux. Dieu nous bénit pourtant. Mais au fond du cœur, il y a une profonde insatisfaction et cela n'est pas normal. Il y a donc sept appels. Je vais vous les donner brièvement. On va commencer par 2 Timothée 2, 1. 2 Timothée 2, 1. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un nom dès le début. Toi donc, mon enfant, souligné enfant ici, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins ? Confie-le à des hommes fidèles. Toi donc, mon enfant, soulignons bien ce mot qui est important, mon enfant. Donc il y avait vraiment entre Paul et Timothée une communion spirituelle profonde, n'est-ce pas ? Alors quel est l'appel ici pour toi et pour moi ? Il y a un message. L'appel est celui-ci. Dieu t'appelle à une communion intime et personnelle avec le Seigneur.
Amen.
Il y a là une vérité extrêmement importante. Car si nous négligeons cette communion personnelle, intime avec le Seigneur, tout le reste va en souffrir. Vous pourrez faire beaucoup de choses. C'est comme si vous semiez justement dans les épines et sur un chemin pierreux et n'importe quoi. Le premier appel pour toi et pour moi, c'est de réaliser que j'ai besoin et je dois entretenir ma communion personnelle avec le Seigneur. C'est là une vérité qui est négligée par beaucoup. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de communion vraiment personnelle et dépendent toujours des autres pour grandir dans leur vie spirituelle. Bon, les autres sont là pour nous aider, les prédicateurs aussi, l'Église est là. Mais ils sont là, j'allais dire, pour faire un travail complémentaire. Mais ils ne doivent jamais remplacer votre communion personnelle et intime avec le Seigneur.
Amen.
Si vous comptez sur les autres à un tel point que vous négligez votre communion personnelle, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alors vous comptez trop sur les autres. Alors vous regardez trop sur les autres. Et vous savez ce que le Seigneur fait quand c'est comme ça ? Eh bien, il fait de telle sorte que vous soyez déçus de ces gens-là. Ah, je suis déçu de tel frère, de telle sœur. Elle sait comme si le Seigneur disait « Alléluia, enfin, elle commence à comprendre. » Oui, il commence à comprendre quelque chose. Parce que tu t'appuyais trop sur lui ou sur elle. Et cela t'empêche d'avoir cette communion intime et personnelle. Toi donc, mon enfant, vous le savez, la deuxième épître à Timothée, c'était la dernière épître de Paul avant de livrer sa vie au Seigneur. Et il devait lui dire des choses extrêmement importantes. C'était celui qui devait prendre la suite, n'est-ce pas? Alors, il fallait que celui qui soit après lui soit vraiment quelqu'un qui réalise cette responsabilité. Et pas seulement cela, mais aussi qu'il puisse faire en sorte que il puisse accomplir le message, la responsabilité, le ministère que Dieu lui confie. Alors, premier appel, pour toi, pour moi, Dieu m'appelle à une communion intime et personnelle. Avez-vous cela? Je vous pose la question. C'est comme si le Seigneur vous posait la question ce soir. Avez-vous cette communion intime et personnelle? Si vous ne l'avez pas, vous serez toujours insatisfaite. Et partout où vous irez, il y aura toujours... C'est comme si on mettait les bénédictions dans un sac percé. Tant que vous êtes là, ça se remplit, mais dès que vous rentrez, ça se vide petit à petit. Et arrivé à la maison, il n'y a plus rien du tout. Et il en est ainsi de beaucoup de vies chrétiennes. Quand on est avec les autres, on est béni, on est content, mais le sac est percé. Et en rentrant à la maison, il ne reste plus rien, plus grand-chose. On a compté sur les autres, tu as été béni par la présence des autres, mais toi, Dieu veut t'apprendre cela. Et c'est comme cela que commence un ministère, quel qu'il soit. Je ne pense pas des ministères de prédication et tout, ça c'est encore autre chose. Mais chacun d'entre vous, vous avez quelque chose à faire de la part du Seigneur. Mais cela ne peut se réaliser sans cette communion personnelle et intime. Intime, personnelle. Ça, c'est capital. Si vous ne l'avez pas, Dieu vous appelle à cela. Et c'est dans la mesure où vous êtes bien avec le Seigneur que vous pourrez être utilisé par le Seigneur pour apporter la bénédiction aux autres. Amen. Avez-vous cette communion personnelle? Ou avez-vous toujours les yeux sur l'un ou sur l'autre? Quand tel chrétien ou chrétienne, par exemple, n'est pas à l'église, vous dites, ça y est, la réunion est gâchée, il n'y a plus rien du tout. C'est quand elle est là ou il est là que ça va. Mais si elle ou lui n'est pas là, c'est fichu d'avance. Fichu d'avance. On dit, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette vie chrétienne? Ça révèle une chose, c'est qu'il n'y a pas de racine personnelle en vous. Vous dépendez des autres. Dieu t'appelle à cette communion. Tu dois prendre le temps pour cela. Et la plus petite personne, la personne même qui n'a aucun don, si elle fait cela, Dieu, tôt ou tard, l'utilisera.
Amen.
Et cette personne rendra gloire à Dieu un jour pour ce que Dieu a fait dans sa vie, tout simplement parce qu'elle a recherché cette communion personnelle et intime avec lui. S'il vous plaît, pensez à cela. Beaucoup de nos problèmes, de nos difficultés seraient résolus tout simplement en mettant en pratique cette chose, cette vérité capitale. Prenez du temps. Toi, mon enfant, il y avait entre eux une communion extraordinaire. N'est-ce pas merveilleux? Et le courant passait, comme on dit, entre deux. Et quand Paul voyait Timothée, il y avait cette communion intime, et Timothée en voyant Paul, il y avait cette communion, et dans cette communion, il y avait cette liberté, il y avait cet amour, cette vérité, il y avait de quoi permettre au Seigneur que les deux s'épanouissent en se bénissant mutuellement. Et il en est de même avec le Seigneur. Mon enfant, Dieu t'appelle à cette communion. Et rappelez-vous bien de cela, rien ne remplacera cela. Tu pourras courir dans le monde entier, écouter les plus grands prédicateurs, et tu rentreras vide à la maison. Tu peux être rempli en partant d'ici, mais en arrivant à la maison, tout sera perdu. Toi donc, mon enfant, Paul parlait de mon évangile, mon Dieu, cette communion intime que Paul aussi avait avec son maître. N'est-ce pas merveilleux? Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Regardez ça, extraordinaire. Il avait été dans le doute. Si je ne vois pas, si je ne vois pas ces marques, je ne crois pas. Et quand il a vu, il a été brisé. Il y en a même quand il voit. C'est comme s'il ne voyait rien du tout. Qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, j'ai vu, mais je n'ai rien vu. Et qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, je ne sais pas. J'ai vu, mais on regarde, mais on ne fait pas attention. Mon Seigneur est... Mon Dieu, pouvez-vous dire cela? Mon Maître. Si nous ne pouvons pas dire l'un et l'autre, mon Sauveur, mon Dieu, mon Rédempteur, il y a quelque chose qui ne va pas. L'âme est malade. Il y a une distance entre ton Sauveur et toi. Mais quand tu peux dire mon Dieu, mon Sauveur, mon Maître, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Allons un peu plus loin. Le deuxième nom que nous allons trouver, il est au verset 3. Au verset 3, nous avons ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Soulignez maintenant le mot soldat. Et il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais regardez au début, souffre avec moi comme un bon soldat. Soulignez aussi le verbe souffrir. Souffrir. Alors en pensant au mot soldat, il y a un appel. Quel est l'appel? Dieu nous appelle à souffrir pour son nom et pour sa gloire. Certains disent, moi je suis appelé à être béni, à recevoir des bénédictions, moi j'ai cet appel-là. Mais ils n'ont pas d'appel pour accepter de souffrir. Timothée était encore un jeune homme et Paul devait l'encourager parce qu'il n'y a pas de ministère sans souffrance, n'est-ce pas vrai? Et Paul, comme il était ouvert avec lui, c'est comme s'il lui disait, mon enfant, tu ne pourras accomplir ton ministère sans réaliser cet appel. Et ailleurs, dans les Philippiens, il dit, il nous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et quand quelqu'un accepte de souffrir pour son maître, parce que on le rejette à cause de son maître. C'est le plus grand témoignage d'amour que nous pouvons manifester à notre Seigneur. Amen. Seigneur, quelles que soient les circonstances, j'accepte de porter ma croix. C'est cela la croix. Il y en a beaucoup qui ont confondu ce qu'est la croix. Attention, ce n'est pas la croix de Jésus. Hein? On a vu beaucoup de choses ces temps-ci à la télévision. qu'on porte la croix de Jésus. Jésus ne nous a jamais apporté sa croix. Il est le seul à la porter en rédemption. Et chaque fois qu'il a parlé de la croix, il a dit que chacun porte sa croix. Sa croix. Ça n'a rien à voir avec la croix du Seigneur. Et l'explication de la croix, c'est toujours en vue d'accepter de souffrir parce que vous appartenez au Maître. Quand on vous rejette, les crucifiés à ce moment-là, c'était les gens c'était un supplice qui était fait de telle sorte qu'on voulait humilier la personne. À un tel point, à un point de bassesse qui n'existait pas. C'était l'humiliation la plus profonde, la plus totale. Si on voulait humilier quelqu'un, c'était la croix. Et Jésus est passé par là. Et quand il nous dit de porter notre croix, cela veut dire aussi que, à cause de lui, on sera calomnié, on sera rejeté, on sera incompris. Mais il n'y a pas de ministère sans accepter cet appel-là, que de témoignage, que de vie chrétienne, que de ministères ont été gâchés, détruits, parce qu'on refuse cet appel-là. On refuse cet appel. Et en refusant cet appel, on refuse la croix. Mes frères et sœurs, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà l'appel que Dieu nous offre. Vous dites, oh là là, celui-là, je voudrais bien le passer à quelqu'un d'autre. Hein? Non, n'oubliez pas ceci. La croix porte ce qu'il apporte. La croix que Dieu vous demande à porter, elle vous portera. Parce que vous en avez justement besoin. C'est ce qu'il vous faut pour vous épanouir, pour glorifier le Seigneur, pour prouver que vous l'aimez. La croix porte ce qu'il apporte. N'est-ce pas merveilleux? Et tous ceux qui ont porté leur croix par amour pour le Seigneur, qui ont accepté d'être rejetés, humiliés, bafoués, salis, calomniés, martyrisés certains. C'étaient les personnes qui avaient cette joie la plus profonde et la plus pure au fond d'elles-mêmes. Attention, tout cela doit se faire par amour pour le Seigneur. Il n'y a rien de légaliste, il n'y a rien de forcé, il n'y a rien d'imposé. La croix, c'est quelque chose que l'on prend. Chacun doit prendre sa croix. Ce n'est pas Dieu qui met une croix sur toi. C'est toi qui prends ta croix. Parce que je t'aime, Seigneur, je prends cette croix. Et j'irai jusqu'au bout avec toi. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, nous dit l'Apocalypse. Voilà le portrait des vrais chrétiens de l'Apocalypse et qui contemplent la gloire de notre Dieu maintenant. Un appel merveilleux, un appel nécessaire. Si vous voulez que Dieu vous utilise, êtes-vous prêts? Ne vous arrêtez pas, le Seigneur sera là. Celui qui avance à genoux, ira jusqu'au bout. Celui qui compte sur le Seigneur, quel que soit son chemin, eh bien, il ira jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse dans ce domaine-là. Voilà un autre appel. Si nous voulons vraiment glorifier le Seigneur, un troisième nom nous est donné. On le trouve au verset 5, juste un peu plus bas. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et, qu'est-ce que vous avez? Soulignez bien l'athlète ici maintenant. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il n'a pas combattu selon les règles. Et l'appel d'un athlète, s'il veut vraiment être un athlète professionnel, le mot-clé, c'est la discipline. Dieu nous appelle à une vie disciplinée. Un athlète doit se discipliner, vous êtes d'accord avec moi ? Prenons un coureur, s'il s'exerce seulement une fois tous les 6 mois et qu'il veuille remporter les Olympiques, est-ce qu'il va gagner ? Vous le savez, que ça n'est pas comme ça que ça marche. Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui sont disciplinés, n'est-ce pas vrai ? Et vous l'avez vu, on le voit souvent. Quel prix ils doivent payer pour arriver ? Mais quand quelqu'un est déterminé à gagner, rien ne l'arrête. Et ce sont ceux-là qui remportent les victoires. Mais nous, la moindre difficulté, on est prêt à sortir, faire du footing. Quand il fait beau, ah, magnifique, on sort. Et dès qu'il pleut un petit peu, oh non, aujourd'hui, non, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Je crois pas. Non, ça va plus. Oh, il y a un peu de vent aujourd'hui. Non. Oh, non, je risque de m'enrhumer. C'est pas possible. Dieu ne veut pas ça. Ah non. Mais est-ce que c'est un athlète qui parle là ? C'est un drôle d'athlète, vous êtes d'accord avec moi ? C'est un amateur. Mais l'athlète professionnel, il a décidé que chaque jour, il sortirait, quel que soit le temps, les conditions. Ça, c'est un athlète. Il fait beau, bon, il fait de telle sorte qu'il puisse sortir. Il pleut, il met quelque chose sur lui et il sort. Il neige, il fait quelque chose. Il sort, il fait, il se discipline. Rien ne l'arrête. Parce qu'il est décidé à remporter la victoire. Êtes-vous décidé ? Ou est-ce que la moindre difficulté vous arrête ? Mais combien de chrétiens courent bien ? Mais à la moindre difficulté, il n'y a plus personne. Certains même disent, voilà, moi, depuis quand ils rentrent dans l'église, voilà, vous allez voir avec moi ça, là, c'est le réveil qui va venir. 15 jours après, il n'y a plus personne. Vous voyez la personne en train de dormir. C'est pas le réveil, c'est le sommeil qui l'a pris, là. Mais qu'est-ce que tu es en train de dormir, là ? J'ai cru que c'était le réveil. Ah oui, il y en a un qui s'est moqué de moi. Quand je priais un peu fort, on m'a dit, tu pries un peu trop fort. Eh ben, j'ai dit, ben, si c'est ça, je prie plus du tout. Et puis j'ai parlé du Seigneur à quelqu'un. Elle s'est pas convertie. Et parce que c'est pas convertie, je parle plus du Seigneur. Ou alors elle s'est moquée de moi, cette personne. Vous vous rendez compte ? Mais vous vous rendez compte ? C'est pas possible, ça ! Je parle plus, c'est fini ! Vous croyez que cette personne ira loin ? Elle finit justement dans la salle d'attente en train de dormir. Beaucoup de chrétiens sont dans les salles d'attente. Et somnolent. La discipline, on n'est pas déterminé. On n'est pas déterminé. Ce sont les sentiments qui nous dirigent ou les circonstances. Quand c'est favorable, tout va bien. Mais quand c'est défavorable, il n'y a plus rien du tout. Est-ce qu'on peut compter sur vous en tout temps ? Est-ce qu'on peut compter sur vous ? Est-ce qu'on peut compter sur vous ? Est-ce que quand vous commencez quelque chose, vous allez jusqu'au bout ? Il y en a beaucoup qui commencent beaucoup de choses, mais n'arrivent jamais à finir. Et quand ça devient difficile, vous savez ce qu'ils font ? Ils donnent ça à quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'a montré que c'est toi qui dois finir maintenant. C'est facile ça, hein, c'est bien. Parce que les problèmes commençaient à arriver, ils disent, oula, il faut que je trouve quelque chose. Et pour que ça marche, il faut dire, le Seigneur m'a dit que. Faut prendre compte, ça fait très spirituel. C'est pas vrai ? Le Seigneur m'a montré que c'est toi maintenant. Hein, bon, parce que c'est très difficile maintenant. Hein, tu veux pas aller par là ? Ah oui, il m'a montré que. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben, dans la salle d'attente. Ben, les salles d'attente sont bien pleines. Hein. Est-ce que on vous arrête facilement ? Si on vous arrête, arrêtez-vous, parce que vous n'irez pas loin. Mais si vous avez en vous quelque chose qui ne vous arrêtera jamais, personne ne vous arrêtera. Amen. L'athlète réfléchit. Il sait très bien que s'il veut arriver sur ce podium, discipline, discipline. Sans cela, pas de résultat possible, pas de couronne possible. Et nous, nous voulons des couronnes sans combattre. Nous voulons les couronnes tout de suite, les bénédictions tout de suite, le ministère tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche. La discipline. Et l'athlète n'est pas couronné, voyez-vous ? Il n'y a pas de couronne avant la croix, avant la discipline. Mais nous, nous voulons être couronnés. Sans discipline, ça ne marche pas. Et s'il n'a pas combattu suivant les règles, voyez-vous, il y a des choses précises. On ne se laisse pas aller comme cela. On doit faire les choses d'une manière méthodique. Il faut qu'on soit décidé dans notre tête de faire les choses de telle sorte que Dieu puisse nous utiliser. Je me souviens encore au début de ma vie chrétienne, lorsque j'étais dans une église où j'ai vu que chacun un peu tournait autour de soi et que ça tournait en rond. Et puis moi, j'étais là, jeune converti, je regardais tout ça. Je me suis dit, Sam, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas finir comme ça ? En train de tourner autour de toi ? Et puis, c'est ça le but de ta vie ? Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Si c'est pour faire ça, je vais certainement retourner dans le monde après. C'est pas pour cela que je me suis converti. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas grand-chose. J'ai à peine mon certificat d'études. Mais Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je n'ai pas grand-chose. J'avais 5 pains et 2 poissons. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu n'as 5 pains et que 2 poissons ? Eh bien, moi, je veux les utiliser. Mais donne ces 5 pains, ces 2 poissons que tu as. Donne le peu que tu as. Et j'ai dit, Seigneur, d'accord, je n'ai pas grand-chose, mais je vais donner ce que j'ai. Et maintenant, je vois qu'après de nombreuses années, le travail qu'on a pu faire, que le Seigneur a pu faire dans ma vie, c'est simplement parce que j'ai cru que le Seigneur voulait m'utiliser et que j'ai mis en pratique ce qu'il m'avait donné. Non pas que je suis meilleur qu'un autre, absolument pas, au contraire. Au contraire. Mais il y avait cette détermination. Seigneur, je ne peux pas vivre une vie chrétienne comme cela. Ce n'est pas ce que je veux. Et si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas ici en train de vous parler. Écoutez-moi bien, je ne serais pas ici. Mais j'ai vu que si nous prenons Dieu au sérieux, alors lui nous prend au sérieux. Tu te dis, mais pourquoi Dieu ne prend pas au sérieux ? Parce que toi, tu ne le prends pas au sérieux. On veut toujours que ce soit à sens unique. C'est pas comme ça que ça marche. Et l'athlète n'est pas couronné. S'il ne combat pas selon des règles, il y a une discipline. Et j'avais décidé, je décide encore maintenant, de ne plus rien attendre de personne. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant moi j'attends plus rien de personne. Si je reçois des autres, c'est toujours ça, c'est un surplus. C'est un surplus, mais j'attends rien. C'est pas un dû, c'est un surplus. Alors merci pour le surplus. Ça, je suis content. Je ne néglige pas le surplus, mais je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien de personne. Et ça fait 40 ans que le Seigneur, lui, ne nous a pas abandonnés. Et sans aucune aide de qui que ce soit, le Seigneur nous a permis d'exercer son ministère pendant des années. Et ça continue encore de grandir. Ça n'en finit pas. Mais il y a un appel au départ. Et l'athlète n'est pas couronné. S'il ne combat pas selon des règles, il faut une discipline. Il faut être déterminé. Si tu ne l'es pas, tu n'iras pas loin. On t'arrêtera bien vite. Et tu vas commencer à accuser Pierre, Paul ou Jacques ou Jean. Ah oui, c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de mes enfants, à cause du grand-père, à cause de la grand-mère, à cause du pasteur. S'il y a des responsabilités, chacun prendra ses responsabilités. Mais Dieu n'acceptera jamais que tu mettes la faute sur les autres. Pour rester dans la salle d'attente et dire maintenant je suis là, c'est à cause de l'autre. Ça, Dieu ne l'acceptera jamais. Un athlète n'accepte pas ça. Quand il a eu un échec, est-ce qu'il s'arrête, l'athlète ? Il dit non. Si ce n'est pas cette année, ce sera dans l'année prochaine. Si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera l'autre année. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui. Et non pas des chrétiens qui disent, dès qu'il y a quelque chose qui va... On ne les voit plus, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et pourtant, au départ, extraordinaire, on voulait déplacer les montagnes. L'athlète, rappelez-vous, il est déterminé. Sinon, il n'aura aucun résultat et il ne sera jamais sur aucun podium. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Il y a un autre petit monsieur qui est là. Verset 6. Ah, qu'est-ce que vous avez après ? Tout de suite après, au verset 6. Le... Ah, soulignez maintenant le laboureur. Laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et là, le laboureur, qu'est-ce qu'il... Oui, Paul voulait lui apprendre quelque chose. Comprends ce que je te dis. Comprends, Timothée, tu en appelles de laboureur aussi. Laboureur, bon, on peut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Mais une vérité importante, quand le laboureur sème, est-ce que le lendemain, ça a déjà poussé ? Non. Le mot-clé, l'appel que Dieu adresse à ce laboureur, c'est la persévérance. Voilà. Et c'est là le problème avec beaucoup d'entre nous. On sème et on voudrait que ça pousse tout de suite. On fait une prière, il faut que Dieu nous guérisse tout de suite. On demande quelque chose, il faut que ça se fasse tout de suite, tout de suite. On est dans cette société-là, micro-ondes. On met dans le micro-ondes. Et si ça ne marche pas tout de suite, ça y est, ça ne va plus. Seigneur, tu ne m'aimes plus, tu m'as abandonné. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais plus maintenant, je suis dans le tunnel. Je sais plus quoi faire. T'es trop pressé, mon enfant. C'est parce qu'on est toujours trop pressé qu'on arrive en retard. Et Dieu, lui, n'est jamais pressé et il n'arrive jamais en retard. C'est merveilleux. Le laboureur. Comprends ce que je te dis. Qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Si tu persévères. En donnant aux autres, tu seras toi-même béni. Dans ce processus de persévérance, tu seras le premier à recueillir les bénédictions. Alléluia! Quand quelqu'un donne du miel aux autres, en plongeant sa main dans le pot, il donne du miel. Qu'est-ce qui se passe après? Il reste toujours du miel sur les doigts. Après, il en donne aux autres, mais après... Alors quand il a compris ça, il dit, viens voir ici, parce que j'ai envie de miel. Pour pouvoir manger davantage, il faut qu'il en donne davantage. Et plus il en donne, plus il a de quoi lécher ses doigts. Mais si tu ne donnes rien, tu n'auras rien à lécher. Il n'y aura rien du tout. Le laboureur doit être persévérant. Si tu as mis la main à la charrue, ne regarde pas en arrière, Jésus nous a dit. Celui qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. La persévérance. La persévérance. Ça ne pousse pas tout de suite. On n'a pas un ministère tout de suite. Les choses ne vont pas tout de suite. Certaines guérisons sont miraculeuses, ça se fait tout de suite, mais d'autres ça se fait petit à petit. Et d'autres il faut combattre davantage. Mais il ne faut pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Il faut toujours chercher à persévérer et à glorifier d'abord Dieu dans sa vie. Et ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas tout de suite que Dieu n'agit pas.
La confiance doit être toujours là, dans le Seigneur. Si vous la perdez, cette confiance, vous avez tout perdu. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Seigneur, je suis perdu, mais je te fais confiance. Je persévère, le laboureur persévère. Il ne va pas tous les matins voir si ça a poussé, vous êtes d'accord avec moi ? Il va pas venir en train de se lamenter. Oh, il parle à sa femme, il dit, tu te rends compte, j'ai semé hier, ça n'a pas poussé. Allez, je vais tout labourer de nouveau et tout. Voilà ce qu'ils beaucoup font. Ils sèment, ils attendent des résultats. Il n'y a pas de résultats, ils détruisent tout. Du Seigneur, bon, bah, c'est fini maintenant, c'est terminé, il n'y a plus rien qui marche. Et tout ça. Et voilà, ils commencent à labourer encore. Certains bâtissent des murs et ils les détruisent après. Voilà comment. C'est pas les autres qui détruisent leur travail, c'est eux-mêmes qui le détruisent. Vous ne trouvez pas que c'est tragique, cela ? Pour beaucoup d'entre nous, votre premier ennemi, c'est vous-même. Vous plaignez qu'il y a des ennemis à gauche, à droite, mais votre premier ennemi, c'est vous. Parce que si vous réagissez différemment, eh bien, personne ne peut vous arrêter, ni aucun ennemi. Amen. Personne ne peut vous arrêter. Et si on peut vous arrêter, arrêtez-vous tout de suite, parce que vous n'irez pas loin. Mais si vous êtes décidé, personne ne vous arrêtera. Alléluia. Bon, on va plus loin. Je vous ai parlé de combien d'appels ? 7. Bon, on en est où ? J'ai encore du temps ? Bon. Allez. 5e maintenant. Au verset 15. Il y a un autre nom qui est là. Verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Ouvrier, soulignez le mot ouvrier, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de Dieu. Ce qu'on demande d'un ouvrier, c'est qu'il soit fidèle. Ce que l'on demande des administrateurs, nous dit Paul, c'est qu'il soit fidèle. C'est comme si Paul disait à Timothée, écoute Timothée, tu es jeune, tu es timide. Et il a dû lui dire, mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Ne sois pas timide, Timothée. C'est pas parce que tu es timide que Dieu ne va pas t'utiliser. Sois fidèle. Sois un ouvrier qui dispense droitement la parole de Dieu. Droitement. Qui est direct. Vous voyez qu'il ne faut pas de détour. Dans le mot grec, il y a la pensée de prêcher d'une manière droite. Pas de compromis, de détour, comme ça se fait encore aujourd'hui. Et beaucoup le font. Nous étions à Sainte-Rosée, près de la Martinique là-bas, c'était... La Martinique, oui, Porto Rico, voilà. On était à Porto Rico, il y a quelques années, et puis on était dans la maison d'un... dans la voiture, ah oui, ils nous ramenaient, je crois, à l'aéroport. C'était l'aide du pasteur qui nous ramenait à l'aéroport. Et pendant qu'on discutait comme ça, ça se passait en anglais... Et il m'a dit, il était en formation, et il m'a dit, nous ici, comme je le disais, qu'il fallait vraiment prêcher la parole comme ça, sans compromis, bah ici, il dit, nous, on a trouvé un chemin qui est au milieu. Ah bon? Il y a un chemin qui est au milieu maintenant. Et je lui dis, mais j'ai cru qu'il y avait le chemin large et le chemin étroit. Et vous avez un chemin au milieu. J'ai dit, c'est la première fois que j'entends ça. Et il n'a plus rien dit. Nous, on prend un chemin entre les deux. Vous voyez, les compromis, hein, c'est cela. J'ai dit, ah bon? Mais moi, j'ai cru qu'il y avait le chemin large et le chemin étroit. Toi, t'en as au milieu. Il a dû comprendre sa bêtise, là. Il a dit, jamais j'aurais dû parler comme ça. Et attention, et il se prenait pour quelqu'un de sage. Et moi, quand je lui parlais, il me prenait un peu pour un extrémiste. Et c'est toujours comme ça que ça se passe.
vous passez un peu pour le ridicule, celui qui juge, qui condamne, qui manque d'amour. Mais lui, il passait pour quelqu'un, tout jeune dans le ministère en plus. Il voulait me faire des leçons. Mais la leçon, c'est bien lui qui devait l'apprendre. Le chemin du milieu. Ah bon ? Je ne savais pas qu'il y avait un troisième chemin, moi. À côté du chemin large et du chemin étroit. Et au moins, il a eu la sagesse de se taire. En espérant qu'il aura eu au moins aussi la sagesse de mettre en pratique ce qu'il a entendu. Amen. Alors, on en est où maintenant ? Fidélité. Fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Mes amis, ce n'est pas compliqué avec le Seigneur. Il faut tout simplement être fidèle à sa parole. Tout simplement. Tout simplement. Et quand je rappelle ce que j'ai dit une fois, quand le soi-disant le réveil, entre guillemets, de Toronto est arrivé, où il y a eu tant de pagailles, de désordre avec Pensacola plus tard, nous étions en Suisse, on faisait des réunions. Et alors, il y avait un jeune homme qui était là, dans l'église où nous étions. Il m'a dit, Sam, s'il te plaît, parce que à ce moment-là, c'était vraiment terrible ce qui se passait. Les gens se roulaient par terre, ça rugissait comme des lions, ça chantait comme des coqs, ça faisait n'importe quoi. Et ça avançait à quatre pattes sur l'estrade, comme des chiens. Et les gens applaudissaient. On a une cassette vidéo à la maison. On voit les gens qui applaudissent, les personnes qui font ça. Et celui qui avance avec les à quatre pattes comme ça, on lui avait mis le fil du micro autour du cou, comme une laisse. Voilà, comme une laisse. Et tout le monde applaudissait. Et soi-disant, on était sous l'onction. Mais dites-moi, mes amis, ces choses ont existé. Et ces choses existent encore dans certains milieux. Et alors, comme les gens étaient perdus, il m'a dit, Sam, dis-moi, s'il te plaît, en une phrase un peu, dis-moi qu'on s'en sorte là, c'est plus possible. Et lui dit, écoute-moi, tout ce que Jésus et ses apôtres n'ont pas enseigné et pratiqué, tu dois le rejeter. Voilà. Et c'est ce que je crois encore, et c'est ce que je croirai toujours. Le modèle, il est où ?
Le monsieur du chien, là,
oui.
C'était à Pensacola.
Hein. Oui, Pensacola, ça. Oui. Toronto, hein. Oui, mais enfin, donc, voilà. Alors, donc, vous voyez où on en est ? Voilà où nous arrivons lorsque nous commençons à faire des compromis en cherchant à plaire à l'un ou à l'autre. Il doit être un ouvrier qui prêche droitement la vérité. Il n'y a pas de compromis à faire. Il faut tout simplement dire ce que Dieu dit. C'est à prendre ou à laisser, n'est-ce pas vrai ? Le Seigneur avait dit aux prophètes dans l'Ancien Testament, « Même s'ils ne t'écoutent pas, tu leur parleras. Parle-leur qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. » Et c'est ce que j'ai toujours dans ma tête. Qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas. Pourvu que ce que je dis soit selon la parole, peu m'importe. Le reste m'importe peu. Parce que ce n'est pas devant ces gens-là qu'un jour j'aurai des comptes. C'est devant le Seigneur. Et je crains trop le Seigneur pour cela. Et je l'aime trop pour cela. Pour avoir la frousse devant un homme. Il a un grand titre. Oh, vous savez, maintenant, il y a des titres d'apôtres et de prophètes. Attention, il y en a qui se prennent pour des apôtres et des prophètes. Il y en a qui sont impressionnés par ça. Et beaucoup de chrétiens, quand un serviteur de Dieu dit qu'il est prophète ou apôtre... C'est comme si cette personne venait du ciel. Et il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Ah, il a dit que c'était un apôtre. Il a dit que c'était un prophète. C'est une tragédie. Les grands titres ne font rien du tout. Si ce qu'il dit ou fait n'est pas conforme à la parole, tu dois le rejeter. Sinon, un jour, c'est Dieu qui te rejettera. On va plus loin ? Sixième appel. Vous avez cet appel, le 5, oui ? Voilà, oui, c'est un petit signe de notre ami, là. Sixième appel, 2.21. Qu'est-ce que vous avez dans 2.21 ? Si donc quelqu'un se conserve pur, retenez bien cela, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Soulignez le mot vase ici. Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne
œuvre. Voilà, Dieu nous appelle à être un vase d'honneur. Et quel est le mot-clé qui va avec cela? Si on peut en dire plusieurs. Mais tout de suite, si donc quelqu'un se conserve pur, voilà. C'est un appel à marcher dans la pureté et dans la sanctification. Ne l'oubliez pas, mes amis, l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Et cela, beaucoup l'ont oublié. Et dans ces soi-disant réveils, entre guillemets, ils ont oublié. S'ils avaient réalisé que le Saint-Esprit qui agit est un Esprit Saint, ils réaliseraient que le Saint-Esprit ne leur ferait jamais faire des choses aussi abominables et affreuses qu'on ne fait même pas dans des maisons psychiatriques. Et qui sont acceptés ici. Dans certaines églises, plus vous êtes fous, plus vous faites n'importe quoi, plus vous êtes applaudis. C'est malheureusement comme cela. Si quelqu'un donc se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Un vase qui marche dans la pureté pour que le vase puisse porter l'eau de la grâce. Le parfum de son amour, l'huile qui guérit, il faut que ce vase soit propre, pur. Amen. Et Dieu ne remplira jamais un vase qui n'est pas purifié et qui ne marche pas dans la purification. Ne l'oubliez jamais. Le Saint-Esprit est un Esprit Saint et il ne collaborera jamais avec un esprit souillé, avec un être souillé qui ne recherche pas la sanctification. Et beaucoup de déviations, d'hérésies proviennent de cela. Soi-disant, ils font des expériences merveilleuses. Mais ce ne sont plus des expériences bibliques. Ils font beaucoup d'expériences, mais qui ne sont pas plus bibliques. Des expériences surnaturelles, mais qui ne viennent plus de Dieu, qui viennent d'ailleurs. Il nous faut veiller. Et Paul dit à Timothée, attention Timothée, attention, si tu veux que ton vase soit rempli, et que ce vase puisse apporter la bénédiction aux autres, son contenu. Il faut que ton vase soit pur. Ne joue pas avec le péché. Timothée, purifie. Ne joue pas avec ton égoïsme, avec ton orgueil, à chercher une réputation. Ne cherche rien de tout cela. Ce sont des impuretés dans ton vase qui ne pourront jamais abreuver les autres. Conserve-toi pur, conserve-toi. Pas seulement 10 ans dans le passé. Il y en a qui ont été purs il y a 10 ans en arrière, mais qui maintenant sont impurs. Tu dois le faire chaque jour. Tu dois veiller à cela. Amen. La pureté. Tu dois aimer la pureté. Et dès que quelque chose te souille l'esprit, tu dois tout de suite venir à la croix et dire, Seigneur, purifie. Je hais cela. Je n'en veux pas. Je m'en repens et le sang de Jésus te purifie. Et ainsi, tu gardes cette communion intime et personnelle avec lui. Un vase pur, un vase pur. Dieu ne mettra jamais sa grâce et son eau de la grâce dans un vase souillé. Purifie-toi, purifions-nous. C'est ainsi que Dieu nous utilisera. Et pour terminer, au verset 24, Verset 24, 22, 23, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, souligné serviteur. Là, il y a encore une autre vérité, un autre appel. Serviteur du Seigneur. Il ne faut pas quoi ? Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigné, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires et tout cela. Autrement dit, quel est le mot-clé ici? Bon, il y a plusieurs choses qu'il doit avoir, mais toutes ces qualités-là se résument en une seule, j'allais dire. C'est comme si Paul voulait dire à Timothée, Timothée, si tu veux être un vrai serviteur du Seigneur, tu dois chercher à honorer le Seigneur dans tout ce que tu fais, à honorer le Seigneur. S'il honorait le Seigneur, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas?
ben, il n'aurait pas de querelle. Vous êtes d'accord avec moi? Un serviteur de Dieu qui a des querelles, il n'honore pas le Seigneur, il le déshonore. Vous êtes d'accord? S'il n'est pas d'accord, il n'a pas besoin de se quereller. Au revoir, c'est tout. Et puis alors, si vraiment il honore le Seigneur, il sera affable, il sera doué de patience, et il redressera avec douceur. Donc, l'objectif que Timothée devait avoir, que vous devez avoir, cet appel doit être d'honorer le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et si ça c'est dans notre tête, dans notre cœur, alors nous ferons attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons, n'est-ce pas vrai? Ça ne veut pas dire que les autres accepteront, pas du tout, au contraire, on sera même peut-être plus rejetés, mais le point important n'est pas là. Le point important, c'est que je réagisse toujours de la bonne façon, comme le Seigneur, serviteur du Seigneur. Il ne faut pas oublier, si tu dois avoir dans ta tête cet objectif, je veux honorer le Seigneur dans mon témoignage. Et quand tu as cela, alors tu évites les querelles, tu évites des paroles inutiles, tu arrives vite. Et bien souvent, quand nous sommes tombés dans ces pièges-là, nous avons réalisé que nous avons premièrement déshonoré le Seigneur. Et ça nous fait de la peine, n'est-ce pas vrai? On se dit, Seigneur, pardonne. Là, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses qui finalement n'étaient pas bonnes, c'est vrai. Mais avant tout cela, je t'ai déshonoré. Il faut aller à la racine du mal. À la racine. Et Paul dit à Timothée, eh bien, cherche à honorer le Seigneur dans tout ce que tu feras. Et le Seigneur sera avec toi. Et tu pourras accomplir l'appel que Dieu t'a adressé. Amen. Cherchons à honorer le Seigneur. On ne plaira pas à tout le monde. En cherchant à honorer le Seigneur, certains se sentiront déshonorés. Mais cela n'a pas d'importance. L'important, c'est de tout faire pour que le Seigneur, lui, soit content. Et qu'on ait son approbation. L'approbation de Dieu vaut mieux que l'admiration des nations. C'est Spurgeon qui avait dit ça. On va finir avec Spurgeon. L'approbation de Dieu vaut mieux que l'admiration des nations. Voilà le serviteur du Seigneur, ou les servantes. C'est le même évangile. Et c'est le même Seigneur qui nous appelle. Ainsi, vous avez cet appel. Ces noms ont une signification. Ces noms vous conviennent aussi. C'est aussi vous, vous êtes aussi serviteur. Pas à plein temps, mais vous êtes serviteur. Vous êtes soldat. Vous devez combattre le bon combat de la foi. Vous êtes ouvrier. Vous êtes laboureur. Chacun d'entre nous est concerné, vous êtes d'accord? Alors, disons au Seigneur ce soir, Seigneur, je veux répondre à cet appel. Pardonne-moi d'avoir fait des choses qui t'ont déshonoré. Pardonne-moi d'avoir galvaudé beaucoup de choses. Mais je ne savais pas que j'avais cet appel. Je veux vraiment prendre tout cela au sérieux. Et je veux te honorer davantage dans ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne veux pas retourner la même personne. Je veux changer. Je veux répondre à cet appel. Vous avez tous un appel du Seigneur. Manifestons ces caractéristiques de ces 7 personnes. Et Dieu sera avec vous, pas seulement avec vous, mais il pourra aussi agir à travers votre vie pour bénir d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Prions quelques instants, Seigneur, merci.
Merci, Seigneur.
Ta parole est la vérité.
Oui.
Sanctifie-nous par la vérité.
Alléluia.
Nous voulons accepter ta parole, même si elle nous dérange, même si elle nous blesse, c'est toujours pour nous guérir.
Alléluia.
Toujours, Seigneur.
C'est vrai, Seigneur.
Merci d'agir. Seigneur. Nous voulons te laisser agir. Nous ne voulons pas rester les mêmes.
Merci, Seigneur.
Alléluia. Merci pour ces 7 appels.
Oui.
Cela veut dire que tu t'intéresses à nous.
Mm-hmm.
Merci. Que tu veux nous utiliser.
Gloire à ton nom, Seigneur.
Que tu as préparé quelque chose de toute éternité.
Mm-hmm.
Nous ne sommes pas inutiles.
Gloire à toi, Jésus.
Faisons attention de ne pas devenir des serviteurs inutiles que le Seigneur éprouvera avec sévérité.
Mm-hmm.
Nous voici, Seigneur. Disons-lui, me voici. avec ce que tu m'as donné.
Oui, Jésus.
Je veux que ma vie te glorifie.
Je glorifie, Seigneur.
Amen. Amen. Restons dans le recueillement quelques instants.
J'ai juste une parole.
Alléluia.
Plus personnelle pour une personne qui subit de fortes pressions ici, qui lui semble parfois insupportable. Voici ce que le Seigneur te dit.
Gloire à ton nom.
Mon enfant, j'utilise précisément ces pressions que tu subis actuellement pour faire ressortir davantage mon caractère en toi. Au travers de ces pressions que je permets, différentes choses dans ta vie sont mises en lumière, que je t'appelle à régler. En reconnaissant ce que je te montre et en changeant d'attitude, tu permettras à mon image de grandir en toi et j'en serai davantage glorifié. Sache cependant, mon enfant, que je mesure et contrôle l'intensité ainsi que la durée de ces pressions. Fais-moi confiance. Marche par la foi. Le jour viendra où tu goûteras les fruits de toutes ces pressions et tu m'en rendras même gloire. Alléluia. Seigneur, louange à toi. Et je voudrais qu'on se lève dans la présence de Dieu parce que le Seigneur va toucher quelqu'un. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous te louons, Seigneur. Parce que tu es toujours le même. Tu nous exhortes, tu parles de mille et une manières. Et maintenant, Seigneur, merci de toucher cette personne qui souffre de migraines.
Oui,
merci, Seigneur, de la guérir de ces terribles migraines chroniques que tu as. Alléluia, reçois la délivrance du Seigneur. Le Seigneur envoya sa parole et il est guéri.
Alléluia.
Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une personne qui a des crises de migraines qui est touchée par le Seigneur. Sois guéri et reçois cette guérison. Alléluia. Il y a une personne qui souffre d'un genou et que le Seigneur touche aussi ce soir. Alors toi qui as un problème de genou, reçois l'attouchement du Seigneur. Et bénis le Seigneur qui te guérit maintenant. Maintenant, reçois cette guérison. Alléluia. La présence du Seigneur est près de toi. Il confirme sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Et il le fait encore aujourd'hui.
Alléluia.
Et il y a quelqu'un qui a des problèmes d'estomac aussi. Genre ulcère d'estomac aussi. Et le Seigneur touche aussi cette personne-là. Reçois la délivrance du Seigneur. Louange à toi. Merci, Seigneur. Reçois la guérison des mains percées de celui qui a souffert à ta place.
Alléluia.
Et qui a pris toutes tes maladies.
Alléluia.
Sur lui. Gloire et puissance à toi,
Seigneur.
Nous te rendons gloire, Seigneur.
Alléluia.
Parce que tu agis tantôt d'une manière et tantôt d'une autre.
Amen.
Et tu as toujours des surprises pour nous.
Gloire
Seigneur,
toi,
louange et gloire à toi.
Amen.
Nous voulons te dire que nous t'aimons et merci pour cette journée
Alléluia.
Où tu nous as visités,
Amen.
Où tu as été au milieu de nous.
Merci
Seigneur.
Amen.
Gloire et louange à toi, Seigneur.
Amen.
Amen.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus,
Alléluia,
soit avec chacun.
Amen.
Accorde-nous, Seigneur, une bonne nuit de repos.
Gloire à toi, Jésus.
Pour que nous puissions demain encore nous tenir devant ta face.
Oui, pour te louer.
Avec les anges et les archanges
t'adorer.
Toi,
Amen.
L'agneau immolé.
Amen.
Et
Amen.
Ressuscité.
Gloire à toi, Jésus.
Merci pour ta présence, que nous aimons,
oui,
que nous
Amen,
apprécions,
Amen.
Que nous respectons.
Oh oui, que
merci pour ta parole. Que nous aimons, que
Amen.
Nous acceptons.
Amen.
Et auquel nous voulons obéir.
Merci.
Trouvons-nous tous des cœurs obéissants, afin que tu puisses agir en nous et par nous,
Amen.
Pour ta seule gloire.
Oui.
Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Allez dans la paix du Seigneur.